Bonjour à vous et bienvenue dans ce cinquième épisode de Flux ERSS. Ensemble, et cette fois-ci, nous allons lire un livre. Plutôt, j'ai lu un livre, mais j'espère vous en donner envie. Et ce livre s'intitule Une nouvelle terre. Il est écrit par Dominique Bou et c'est sorti aux éditions Des Clés de Brouwer. On en parle tout de suite après un jingle. USSR. Alors, avant de vous parler du livre Une nouvelle terre, donc de Dominique Bourg, paru aux éditions Des Clés de Brouwer en mars 2018 pour être précis, je vais vous faire un petit, ma foi, petit CV de Dominique Bourg. Donc, Dominique Bourg, en fait, il est né en 1953, c'est un philosophe français et professeur ordinaire, professeur extraordinaire, à l'université de Lausanne. Alors, et pour son domaine de prédilection, pourrait-on dire, je peux lire dans la page Wikipédia, depuis 2006, il est professeur ordinaire à la faculté des géosciences et de l'environnement de l'université de Lausanne. Il est il est gentil, bon, bref, attendez, c'est juste que mon ami Wikipédia a un petit peu bugué. Voilà. Il a été directeur de l'Institut de politique territoriale et d'environnement humain à la même université de 2006 à 2009 et depuis 2012, il donne également un cours sur les questions environnementales actuelles, voilà, à l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Ses domaines de recherche concernent notamment l'éthique du développement durable. Aujourd'hui, nous allons parler donc d'écologie, si vous l'avez compris. Je démarre donc un peu cet épisode, vous comprenez, je suis un peu rouillé. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de... Vous savez, je fais plus des podcasts de gaudriel que des podcasts intellectuels, donc pour l'instant, je suis un peu... Voilà. On pourra noter aussi qu'il était vice-président de la Fondation Nicolas Hulot, qu'il a quitté, je crois, assez récemment. Je crois que... il y a eu quelques dissensions lorsque Nicolas Hulot a été nommé ministre de la Transition écologique, et pas ministre de l'écologie, mais juste... pas tout à fait les mêmes mots. Pour aussi noter qu'il est officier de la Légion d'honneur, et ça date de 2013. Donc il a sorti une tripotée de livres, mais aujourd'hui on va s'intéresser plus particulièrement à Une nouvelle terre. Alors pour être très précis, ce livre j'en ai entendu parler par le biais, et vous retrouverez la vidéo avec ce podcast, j'en ai entendu par le biais de François Ruffin, qui avait fait une interview fleuve de Dominique Bourg, d'ailleurs pour la sortie de Une nouvelle terre. Et c'était, pareil, donc en 2018, et ça dure à peu près demi-heure, si ma mémoire est bonne, et ça m'avait fortement donné envie de lire ce livre. Mais peut-être aussi, avant de démarrer, je vais faire ce qu'on appelle un trigger warning, parce que je sais que j'ai peut-être quelques auditeurs qui ne sont pas encore tout à fait au point. Je sais que j'ai déjà fait pas mal de podcasts. Et attention, le premier, je sais que j'avais dénoncé les vilainos podcastos. C'était pas bien. Mais là, on va quand même passer un petit peu un échelon quand même très au-dessus. Donc si déjà, quand vous êtes sur Twitter, le lexique vous déplaît. C'est-à-dire que déjà, vous avez des problèmes à faire des threads, par exemple, qu'on n'avait pas le... ça vous fait déjà mal à la tête, je pense que vous n'êtes pas obligé de suivre ce podcast, parce qu'aujourd'hui, donc, on va parler de philosophie, c'est un livre que j'ai très bien aimé, mais dont j'ai du mal, même moi, après l'avoir lu quand même avec beaucoup d'attention, à tirer tous les concepts du livre, ça encore ça va, mais ça va être de vous faire un explicatif de tous ces concepts avec le lexique qui va avec. Et bien évidemment, je vais vous raconter le livre le plus possible comme l'auteur raconte les... L'auteur essaie de nous vulgariser, nous expliquer certains concepts. Donc ne prenez pas ombrage si je dis des choses qui ne vous plaisent pas. Je pense par exemple aux gens qui pourraient être vegan, parce qu'à un moment je vais en dire un mot, parce que l'auteur en dit un mot dans son livre, et je pense qu'à ces gens-là, ce que je vais dire, ça ne leur fera pas du tout plaisir. Donc si... Déjà, vous êtes choqué par avance, vous pouvez d'ores et déjà quitter ce podcast, je ne vous en voudrai pas. Voilà, parce que c'est, ma foi, compliqué, et il dit quelques vérités qui ne sont pas toujours faciles à entendre, mais moi ça m'a beaucoup plu. Donc, aujourd'hui, ce livre, alors, donc, voilà, donc c'est un essai philosophique, hein, donc c'est c'est un beau pavé de 233 pages. Et quand je dis pavé, ce n'est pas forcément par rapport au nombre de pages qu'il est difficile de prendre d'accès ce livre, mais plutôt par rapport, donc voilà, j'ai dit, tout ça, son lexique, tout ça, etc. Il vaut mieux avoir fait de la philosophie avant. Alors moi, je sais que la philosophie, ça m'a toujours intéressé. J'en fais toujours un petit peu, voilà, je ne suis pas un plus grand philosophe, hein, devant l'éternel. Mais voilà, c'est pas forcément le livre le plus simple à prendre d'accès, hein. C'est pas oui oui la girafe rose par exemple. Il faut savoir manier beaucoup de concepts pour pouvoir lire ce livre. Je pense que ce soit le plus gros reproche que je pourrais lui dire. Oui, déjà je fais le reproche principal dès le début. Mais si vous êtes un petit peu aguerri à certains concepts philosophiques, moi je les ai pas tout à fait bien compris. Mais ma foi, c'est quand même, voilà, le bouquin parle de pas mal de choses. Et pour vous expliquer un petit peu de quoi parle le livre, je vais vous lire le quatrième de couverture. Notre civilisation est si matérialiste qu'elle détruit paradoxalement les bases matérielles de notre vie commune. Ceci dans une indifférence quasi générale. Pourquoi en sommes-nous arrivés là? Comment rendre compte de notre capacité de destruction sans égale? On tente de répondre à partir de l'époque qui nous échoit, celle de l'Anthropocène, qui marque les dommages irréversibles introduits dans l'environnement. Celle aussi de l'envolée du numérique et d'un délitement parallèle et conjoint de nos démocraties. Ce parcours permet de dégager les racines spirituelles de la violence que nous infligeons à nous-mêmes comme à notre environnement. Or, la spiritualité est une donnée fondamentale de toute société où se rejoint un dépassement de soi et un certain rapport à la nature. Affirmer ceci, c'est découvrir que la pensée émane du monde plus qu'un sujet isolé. L'esprit se voit libéré de sa frénésie transformatrice et s'ouvre à une forme de contemplation. Apparaît alors la promesse d'une autre civilisation, d'une nouvelle terre. Donc vous voyez déjà, je pense que le quatrième de couverture, voilà, déjà ça met un peu ça met en confiance, hein, comme on dit. J'en profite pour regarder parce que je suis branché sur batterie, donc j'en profite pour regarder. Alors si peut-être le son de ce podcast est un petit peu plus faible, c'est peut-être parce que je suis sur batterie, j'ai voulu me mettre un petit peu cosy, mais je ne suis pas devant l'ordinateur, et oui, je n'ai que mes notes, parce que ouais, je prends des notes maintenant, écoutez, c'est l'erreur que j'avais pas fait pour le premier livre que j'avais lu, sur de Jacques Sapir, pour ceux qui n'auraient pas écouté l'épisode. Mais là, ouais, il y avait quand même pas mal de concepts à noter, donc bon, un petit peu compliqué, quoi. Alors je vais essayer de vous vulgariser, alors ça va être une sorte de pot-pourri, parce que le livre aborde énormément de concepts que nous allons voir. Dès à présent, hein, je vais vous lire les titres des chapitres, vous allez voir, c'est tout un programme. Donc après, une introduction qui vulgarise un petit peu, pas qui vulgarise tout quand même, mais qui met bien en jeu les sujets qui vont être présentés dans le livre. Nous avons l'Anthropocène et le changement de nos modes d'habitation et de conception de la Terre. Alors l'Anthropocène, c'est... Pour vulgariser, c'est l'époque de l'homme, en fait. Donc, c'est ce qui avait marqué un petit peu sur la quatrième de couverture, mais on peut dire que c'est l'époque de l'homme, mais vraiment, le départ, c'est 1950 à peu près, pourrait-on dire. C'est au début, à la rigueur, peut-être début de l'ère industrielle. C'est vraiment quand l'homme a commencé à transformer massivement, je me dis, mais de façon, voilà, donc, industrialiser son environnement, parce qu'on avait déjà eu pas mal de transformations avant cela. Par exemple, la forêt des Landes, qui ne le savent pas. Tout ça, c'est la main de l'homme. Mais, voilà, on va dire que c'est des dégâts qui commencent à être... c'est vraiment à partir du moment où le pétrole a commencé à être utilisé massivement. Après, nous avons, comme sous-chapitre, cette première partie, nous avons l'alphabet et l'exosomatisation. Exosomatisation et anthropocène, numérique et exosomatisation, menace de l'anthropocène. Alors, l'exosomatisation, je l'ai noté... En fait, si vous voulez, c'est le développement extracorporel de l'humanité et de ses techniques adjointes. Donc, c'est encore, par exemple, c'est cette transformation, tout ça, etc. Et quand il parle forcément numérique, c'est pas forcément que le transhumanisme, mais c'est ce rapport qu'on donne aussi, cette espèce de surfiltre qu'on donne. Maintenant, par exemple, on a le numérique, mais bon, un disque dur, ça reste que des que du carbone, enfin du carbone. Je schématise dans ma tête, j'ai pas le je sais pas de quoi est fait forcément un disque dur ou un SSD hein, d'ailleurs pour ceux qui connaissent. Mais voilà, c'est pas, je parle pas de ce niveau d'abstraction là, je parle vraiment de cette transformation de ce qu'il appelle d'ailleurs dans le livre le donné naturel. Donc en gros, c'est ce que la nature nous propose entre guillemets, hein, c'est pas voilà, vous verrez qu'il y a, il y a plusieurs choses qui vont dans plus ou moins de sens. Mais voilà. Ça maintenant, je n'avais pas dit, voilà. Après, alors, il y aura un petit chapitre après, c'est des dommages transcendantaux, les prérequis de la société du risque. Dommages transcendantaux contre risques globaux. Après, nous avons un chapitre, par contre, lui, qui est beaucoup plus complexe. Là, on commence à attaquer le gros du livre. C'est spiritualité, nature et société. Spiritualité et religion, que les deux n'ont pas forcément toujours le même rapport qu'on pourrait le croire. Les deux sens ou fonctions de la spiritualité, de la modernité et du lien entre les deux sens de la spiritualité. L'autre généalogie de la modernité, les guerres de religion. Encyclique Laudato si et le retour sur la bifurcation de la chrétienté latine. Et pour finir, nous avons la culture du déchet et résistance du paradigme techno-scientifique. Ça, c'est un petit peu cette partie que je vous parlais tout à l'heure, le transhumanisme. Quatrième partie, esprit, terre et spiritualité pour un onisme réflexif. La pensée et la terre, spiritualité et pluralisme. Cinquième partie, la modernité à bout de souffle. Sommes-nous aussi libres que nous le prétendons? Le marché contre la pluralité des modes de jugement. Une défense du pluralisme et de l'égalité. Des libertés contradictoires. La fin de la croissance. Est-il absurde d'évoquer un programme d'autolimitation? Et toute dernière partie. Vers une société plus respectueuse du donné naturel, éthique et donné, droit et donné, des sciences et des techniques respectueuses du donné naturel, spiritualité de demain. Qui achève. Alors ouais, voilà, le livre est quand même voilà, très touffu, hein, je le recommanderai pas à tout le monde, je vais essayer de vous vulgariser quand même pas mal de concepts qui sont expliqués dans le livre. Quand il parle, par exemple, dès l'intro, il en parle, c'est le dépasseur. Je ne veux même pas forcément, il commence à en parler un petit peu vers l'intro, mais globalement, c'est ce que j'ai retenu majoritairement du livre, entre autres choses. C'est déjà ce rapport qu'on a par rapport à la nature, nous en avons un détachement qu'on pourrait dire pas maximum, mais un petit peu. Il parle, oui, des fois de la nature comme ce qu'on appellerait une réserve de stock. En fait, quand on voit une montagne, on voit par exemple du minerai. Je ne sais pas forcément ce qu'il y aurait dans la montagne, mais on pourrait y voir du minerai, par exemple. Quand on voit une forêt, on peut y voir des planches. On peut y voir du bois, on peut y voir des meubles, par exemple, des meubles Ikea de merde. Des choses comme ça. Et après, quand on voit un animal, si possible, pas forcément un renard, là où on pourrait y voir par exemple un nuisible, pour certains. Par exemple, je vais parler d'une vache, hein, d'un veau, on pourrait y voir à manger, hein, voilà, tout simplement, des pièces de bœuf dedans. Voilà, donc en fait, quand il parle de le donné naturel, c'est tout cet ensemble, mais le réservoir de stock, c'est ce qu'on imagine par rapport à ce qu'on voit. Donc en fait, on les voit presque comme des objets, des chiffres, quoi, en fait. La nature, c'est un peu ça. Et ce qui parle derrière, ce que j'ai aussi le plus retenu du livre, donc c'est cet dépassement de la spiritualité du consumérisme. Parce qu'en fait, je pense supputer que la spiritualité moderne, donc c'est expliqué dans d'autres termes aussi dans le livre, à des moments, il y a cette sorte de dépassement de soi, aussi, qui veut faire qu'on soit un individu meilleur, pas de créer une meilleure société, non, que chaque individu devienne meilleur, entre guillemets, bien aimé, dans ce podcast. Et cette spiritualité du consumérisme qui descend d'autres spiritualités, tout ça, etc., de cette même leur spiritualité et la religion aussi, hein, comme la religion chrétienne, où au fur et à mesure, la religion chrétienne aussi s'est beaucoup abaissée au niveau du matériel. Donc quand on voit des représentations, on voit des gens qui travaillent, il s'est parlé, il s'est expliqué dans le livre, des gens qui labourent dans les champs par exemple, etc., au niveau du Moyen-Âge, tout ça. Et c'est cette rapport au, voilà, c'est cet rapport aux données qu'il essaie d'expliquer. Et qu'aujourd'hui, donc, on en est arrivé au consumérisme, hein, le vrai, le grand. Et qu'il faudrait forcément sortir de cette spiritualité, de consommer, en fait. Mais consommer, il parle vraiment, lui, dans tous les sens du terme. Il y a cette espèce de surconsommation aussi, hein, quand on achète plein d'objets de merde. Et c'est pas forcément toujours pour le meilleur. Mais tout cela nous permettrait d'avoir notre rapport donc aux données naturelles, c'est-à-dire de ne pas avoir qu'un stock, tout simplement. Je trouve que c'est vraiment l'idée principale du livre. Et tout ça, c'est explicité, quoi. Il y a par exemple l'artificialisation de notre nature, donc c'est ça, c'est de l'avoir comme un stock, qui, par notre main, devient autre chose. On en fait par exemple une bêche, hein, par exemple, pour travailler les champs. On pourrait en faire aussi une charrue, tout ça, etc. Et on en est arrivé au niveau de sophistication. Voilà, je sais pas si je l'ai dit comme il faut, mais c'est pas grave. Aujourd'hui, on fait des robots, tout ça, etc. On fait des processeurs, on fait plein de choses, tout ça, etc. On fait des. Et il ne faut pas oublier aussi, et c'est un peu bizarre, qu'en fait. On altère aussi parce qu'on fait la météo, donc bon, le climat, ça on le sait, mais la météo aussi, par conséquent. Et en fait, on pourrait se dire aussi que, alors on crée pas forcément des orages pour créer des orages, hein. C'est pas nous-mêmes, je pense qu'on crée des orages. Mais en fait, on a tellement influencé tout ça, qu'en fait on est un petit peu créateur de tous ces effets qu'on a maintenant, donc ce réchauffement, de ces, bien évidemment, ces intempéries qui deviennent aussi de plus en plus fortes, donc aussi ils portent notre marque aussi, pourrait-on dire. Alors il y a plein d'autres concepts qui sont expliqués. Donc par exemple, on a aussi le concept de l'alphabet. Alors l'alphabet ici grec, parce que l'alphabet grec est composé de tout ce qui est consonne, voyelle, etc. Plutôt consonne et voyelle, mais voilà. En fait, c'est ce qu'il appelle encore une fois un niveau d'abstraction. Donc en fait, si vous voulez, par le biais d'un alphabet qui est vraiment détaché du son, des concepts, je vois quelque chose de rouge, je peux dire un son pour quelque chose qui est rouge, je peux dire utiliser un son pour un oiseau, par exemple, ou pour un animal, ou pour quelque chose, bon bref. On en est arrivé au point où en fait on peut, si par exemple rouge, vert, ne sont composés que de lettres donc de l'alphabet, et y en a des V. Et. Mais comme vous voyez, le V, c'est faut un E derrière, les O, tout ça, etc. Ça va pour tout ce que... Alors ça, je crois que c'est les voyelles, si ma mémoire est bonne, pour ne pas me tromper. Mais, ouais, il faut toujours un sub... ça en arrive au niveau d'abstraction, c'est un peu vraiment contre mieux que moi. On en arrive à un niveau d'abstraction, voilà, vraiment, on ne peut pas prononcer toutes les lettres sans ramener d'autres lettres derrière, en fait. C'est un petit peu comme W, quoi, par exemple. C'est vrai que c'est une lettre qui présente bien sa W. V, donc déjà il y a le son E à la fin, donc E. Mais il y a déjà double. W. C'est-à-dire qu'il y a déjà double. En fait, on a un niveau d'abstraction qui est quand même assez, pas effrayant, mais qui est quand même costaud. Et tout ceci contribue forcément, selon lui, à faire une abstraction par rapport au parler, donc quelque part aussi plus loin à la nature, par rapport à ce qu'on au son que vous pouvez produire, tout ça, etc. Bon, je pense que c'est un concept qui s'entend pas mal. Alors, il passe un peu de temps sur le livre à parler de ce concept là et d'autres formes d'abstraction. Ça me paraissait très intéressant. Après, il parle aussi de système Terre. Bon, système Terre, ça n'est pas forcément que l'écosystème en tant que tel, c'est aussi. Ce qu'il appelle les cycles bio-géochimiques de la Terre. Donc c'est tout ce qui permet la création du climat, donc du vent, de la pluie, tout ça, etc., que nous sommes en train d'altérer durablement. C'est aussi ça aussi, nous n'avons pas qu'un impact sur notre sur les paysages, hein, quand on fait des mines, tout ça, etc. Que sur la faune et la flore, etc. Les insectes, tout ça. Hein, je pense qu'il y a pas mal de choses que nous altérons. Nous altérons aussi le climat dans sa globalité. Voilà, dans ce système Terre, dans sa globalité. Dans la numérisation, ça je vous en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est aussi un niveau d'abstraction un petit peu supérieur. Alors, vous m'écoutez en numérique, c'est formidable, mais voilà, c'est un niveau d'abstraction supplémentaire. Je ne suis pas devant vous, mais vous pouvez quand même m'écouter. Et je peux vous raconter ces concepts-là par le biais d'un micro, tout ça, etc. Et tout ça n'est pas forcément hyper naturel. C'est du donné naturel, hein, quelque part, mais ce n'en est pas forcément. Après, il parle d'autres concepts aussi dans le livre. Alors, je vous les mets dans l'ordre, hein, sur l'ordre des chapitres. Il parle aussi de l'émergence de la société de l'individu, qui a pu être assurée tout simplement par l'assurantiel et le droit social. En fait, on a permis aux individus de s'émanciper des traditions qu'il y avait avant, de cette sorte d'ordre établi, pour leur permettre d'avoir cet esprit, bien évidemment, d'entreprendre, hein, toujours, l'esprit d'entreprendre, la Startup Nation, qui n'est en fait que la lente émergence de donc, cette société des individus, où en fait l'individu est roi, quelque part, hein, il est par essence, il a cette capacité d'entreprendre, tout ça, etc., et tout ça, bien évidemment, ça rejoint, alors, il ne fait pas le rapprochement. Entre guillemets, mais voilà, c'est aussi la société de l'individu, non la société du consommateur, pour moi. Donc c'est vrai que ça peut choquer, mais ça peut lui permettre, par exemple, du coup, à l'individu de prendre des choix forcément individuels, et donc de prendre des initiatives. Alors après, il nous parle aussi de spiritualité, nous avons donc le donné naturel, alors qui pourrait être dit ou non de nature. C'est-à-dire, qu'est-ce que on peut voir quelque chose de divin, du donné, par exemple l'orage ou le soleil, hein, pour utiliser une imagerie qui pourrait être facilement compréhensible. Ou non, d'ailleurs, hein, un caillou n'est pas forcément divin par essence, même si, pourquoi pas. Mais voilà, il y a aussi cette dualité, donc déjà dans la nature, et ça c'est pareil, c'est par nature, c'est par essence. Donc c'est quelque chose d'assez profond, quelque chose qui date d'il y a très longtemps. Et par conséquent, la spiritualité, qui n'est pas forcément de la religion, je le répète, a amené à deux sens, grosso modo. Nous avons la catégorisation du transcendantal, donc c'est ce que je vous explique, ne pouvant pas toujours tout expliquer, la spiritualité a fait qu'on a créé des concepts pour essayer de comprendre l'environnement qui nous entourait, donc... c'est pour ça qu'on a eu, par exemple, des dieux de l'orage, tout ça, etc., à une époque. C'était un petit peu de la conceptualisation de faits qui sont concrets, mais qu'on avait du mal à expliquer. Et après, par-dessus de là, on a forcément cette spiritualité, je pense que c'est le sens que certains auront, j'espère, c'est ce qu'on appelle l'élévation personnelle. Donc, alors, l'élévation personnelle il donne pas mal d'exemples, pas mal de sens, tout ça, etc. Donc, par exemple, chez les bouddhistes, donc, cette élévation, hein, vers le haut, le fait de s'astreindre à des contraintes, tout ça, etc., pour devenir un individu meilleur. Et forcément, quand je vous parle de dépassement de soi, vous devez aussi peut-être penser à cette post-modernité où nous sommes, par exemple, certaines formes de reconnaissance de cet esprit d'entreprendre, de la richesse, tout ça, etc. De la beauté, de ces concepts un petit peu vagues, enfin, non pas forcément vagues, qui sont pleines de vacuité par contre. Bon. Mais voilà, c'est un petit peu cette élévation, quand on parle d'élévation, on revient de tout cela. Quoi. Alors je sais que c'est pas forcément le podcast le plus simple que j'aurais à faire, mais bon. Moi j'essaie de vous expliquer ce livre pour essayer de vous donner un petit peu envie de comprendre pas mal de concepts philosophiques. Alors par exemple, j'ai noté aussi par sa prise de connaissance de la nature, l'homme devient maître de ce connu. Donc c'est pareil, c'est un découlement de la premier sens de la spiritualité, donc le fait de nommer des choses qu'on ne comprend pas, mais au fur et à mesure nous avons eu la capacité de les comprendre, donc nous les avons dominées. Et c'est, je crois, je ne sais plus qui c'est qui le disait, mais c'est savoir, c'est pouvoir. Alors, j'ai pas noté la citation, mais c'était marqué dans le livre. Des eaux, pas des eaux. En fait, c'est vraiment ça, en fait. C'est, par exemple, au début, le pétrole, on s'en servait pour couler les trucs. c'était Igluang, et c'était ce qui ressortait dans certaines régions en Égypte, je crois, ou en Syrie, bref, temps immémoriaux. Sauf qu'un jour, on s'est rendu compte que c'était quelque chose de très calorifique et qui permettait d'être plus puissant que la vapeur. Et est arrivé ce qui fallait arriver, donc l'ère moderne, dirons-nous, où en fait tout est commencé à mouvoir grâce au dieu pétrole. C'est un petit peu ça qui se cache derrière ce concept. À partir du moment où l'homme sait, l'homme il a le pouvoir, donc il peut agir sur les choses. On pourra aussi noter, alors ça c'est dans une conception plus chrétienne, plus catholique, dirons-nous. Et Dieu a créé la nature, mais il a aussi créé l'homme à son image. Donc on peut en déduire qu'il y a Dieu a fait l'humanité de façon anthropocentrique. Donc il a fait l'homme et de descente divine, à peu près, pour étonner, il s'est passé plein de trucs qui pourrait un petit peu faire dire d'autres choses, comme voilà, le paradis, Adam et Ève, tout ça, etc. Mais je ne vais pas forcément revenir là-dessus. Mais on pourrait dire que voilà, que donc forcément, un petit peu l'homme est un petit peu d'essence divine. Donc, forcément, comme il a créé la nature à côté, on pourrait y voir une dualité, tout simplement. Et que l'homme, d'essence divine, pourrait contrôler cette nature. Ce qui est vrai, mais ce qui n'est pas forcément à notre avantage. Au-delà de ça, il note aussi d'autres concepts, donc ce qui s'appelle l'esprit et la matière. Alors ça, c'est pareil, c'est un chapitre qui est vraiment intéressant. C'est cette dualité qu'on pourrait penser donc entre l'esprit et la matière. Sauf que la matière n'est pas forcément... la matière existe, il y a quelque chose de concret. La pensée, moins. L'esprit, la pensée, tout ça, etc. Mais la pensée est déclenchée quelque part. La pensée est déclenchée par notre cerveau. Donc forcément, elle est d'essence matérielle. Même si on pourrait l'analyser, tout ça, etc., on est quand même, on jugerait soi-même sa propre pensée. Donc en fait, elle s'appuie toujours quand même sur du matériel, et elle s'appuie aussi sur du matériel, en tant qu'être vivant matériel, mais elle s'appuie aussi sur du matériel, parce que quand j'interagis avec quelque chose, c'est du matériel, ça me fait réfléchir à quelque chose, donc ainsi de suite, en fait, la pensée est forcément d'essence matérielle. Donc, mais les deux ne sont pas détachables en tant que tel. C'est pas si je suis, même si je suis, quand je n'ai pas de pensée, je suis de la matière, mais ben, voilà, je pense que vous pouvez comprendre le principe. Et aussi, on pourra noter que nous provenons de la mémoire de la Terre. Alors, la mémoire de la Terre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est que nous descendons de diverses bactéries, tout ça, etc., d'une lente évolution. Et en fait, nous sommes qu'un des nombreux produits de la Terre. Mais voilà, nous sommes quand même nous faisons partie de son héritage, mais nous ne sommes que l'une des nombreuses pierres de la Terre. Nous ne sommes pas une sorte de pinacle divin qui viendrait tout payer comme nous le faisons actuellement. Après, il y a d'autres concepts dans le livre. C'est le fait que, avec l'ère moderne, il y a un domaine de prédilection qui a pris le pas par rapport aux autres. Un domaine d'activité même, pourrait-on dire. Ce domaine d'activité, forcément, je pense que vous le sentez venir, c'est forcément le fiduciaire ou le financier. C'est ce qui permet d'avoir une réduction du jugement, comme il dit, au payé et au non-payé. Et c'est la domination d'une activité par rapport aux autres. Alors quand je dis la domination du payé par rapport au non-payé, c'est un domaine où il y a pas mal de choses qui ont été un petit peu phagocytées. Pour schématiser, par exemple, il prend un moment l'image de... Alors je crois que c'est les chiens de je ne sais plus qui. C'est une œuvre d'art qui est faite par un ancien trader, comme quoi, hein, comme il le précise, c'est assez cocasse, qui sont vendus, je crois, 8 millions d'euros, ou que sais-je. Et quelque part, ça définit aussi notre rapport au beau. Si on y met de l'argent, c'est que ça vaut quelque chose, donc c'est peut-être beau. Alors, je sais que ça peut se contredire, mais visiblement, les gens qui ont de l'argent, quand même, financent des trucs, des fois, on se pose quelques questions. Pourquoi, comment, quels sont ces projets? C'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Et forcément, quand il parle de domination d'une activité par rapport aux autres, on pourrait voir, par exemple, je prends l'État français, l'un des plus gros ministères, c'est le ministère de la Finance, et il faut savoir que la plupart des lois, tout est budgétisé, tout simplement. Donc la transition écologique, forcément, est budgétisée. hein, les prestations sociales, tout ça, etc. Tout est et même la santé, tout ça, etc. Et ça écrase tout, en fait. Ça écrase le beau, le laid, ça écrase le légitime, l'illégitime, tout ça, etc. C'est vrai que ça devient excessivement compliqué de sortir de cette ornière du financier. Et on a d'autres domaines d'activité qui sont aussi, pas impactés, parce que c'est un mot dégueulasse, qui sont altérés par cette perception des choses, comme la science. Alors la science, vous allez me dire, qu'est-ce que ça peut être que la science ? Je peux vous parler de processeurs ou des OGM, par exemple. C'est de la science. Mais pour lui, ce n'est pas de la science en tant que telle. Ce n'est pas de la science abstraite, ce n'est pas quelque chose qui tend un espoir. Pas vraiment un dépassement qui tente à atteindre une sorte d'infini, si vous voulez, mais c'est une sorte d'ingénierie, en fait. C'est vraiment qui est là pour vendre des produits, parce qu'on vend des OGM, et on vend des processeurs. Et en fait, on utilise beaucoup de la science, par exemple, pour faire des missiles intercontinentaux, par exemple. On utilise beaucoup de science pour faire ça. Hein. À une époque, ils en auraient rêvé de pouvoir tirer des missiles qui traversent des pays et des continents entiers. Sauf que finalement, quel est le but, en fait? Le but, c'est de vendre. Il n'y a pas de... Voilà, c'est surtout ça, le but. Quand les labos pharmaceutiques font des recherches, c'est pour vendre aussi. Malgré tout ce qu'on pourrait dire sur les vaccins, c'est bien, c'est pas bien. Pour moi, c'est bien. Mais on ne peut pas noter que ce n'est pas pour vendre, à un moment. Voilà, c'est pas, ils font pas ça. C'est pas des philanthropes qui se disent, on va faire juste avec un coup de revient. Non. C'est... voilà. C'est vraiment, on est là aussi pour vendre, quoi. Donc voilà, c'est ça. Donc la science est devenue une sorte d'ingénierie de la vente de matériel, moi j'ai noté. Alors après, on a d'autres concepts aussi qui sont expliqués dans le livre. On a les contraintes démocratiques aussi, qui sont altérées par ce qu'il appelle le marché, hein, parce qu'on va l'appeler comme ça, le marché. Et c'est les accords internationaux qui sont contraignants. Plus contraignant pour les États que forcément pour les entreprises. Parce qu'en fait, elles sont là pour... c'est leur gagne-pain, tout simplement. Et c'est elles, quand même, qui dirigent un peu le bal. Hein, voilà. Pour les, quand Emmanuel Macron reçoit les présidents ou les directeurs du CAC 40, eh ben, c'est pas pour rien. Et c'est un peu ça. Et donc, on en arrive même à une espèce de malaise, où en fait, on met des CETA, tout ça, etc. Donc c'est des traités, des accords, des accords internationaux entre les pays, et qu'on en rajoute même des clauses pour dire, écoutez, si quelque chose de contraignant vous arrive, à l'entreprise, et bien évidemment, et bien les États s'engagent à rembourser les dégâts. Donc en fait, on en arrive à un point où en fait, on peut plus jouer sur ce levier. Et donc forcément, qui dit vendre, dit... utilisation de matériaux, tout ça, etc. Donc forcément, on continue à piller le donné naturel. Je note aussi que, malgré l'individualisme, c'est ce que j'ai noté, et cet esprit d'entreprendre, forcément, on en arrive à une société qui est un petit peu qu'on pourrait qualifier à deux vitesses. Quand je vous parle de ces accords internationaux, par exemple, je pourrais vous parler de Monsanto, par exemple, qui vend des semences, et qui a fait breveter ses semences, et on est obligé de passer chez des semenciers pour acheter des semences. Sauf que forcément, tout ceci a un impact sur la liberté d'entreprendre des agriculteurs, par exemple. Il pourrait avoir des semences à lui, hein, des semences locales, j'ai plus le nom, mais c'est pas grave. Et il pourrait les revendre ou les donner d'ailleurs, hein, ou les faire partager à d'autres agriculteurs. Et bien là, il ne pourrait pas, par exemple. Parce que maintenant, les accords, c'est contraignant, faut pas faire faut pas que ça dépasse tant de ceci, tant de cela, etc. Donc forcément, qu'est-ce qu'on en arrive? On en arrive au fait où déjà, le néolibéralisme, l'hyperlibéralisme, a créé une liberté d'entreprendre à deux vitesses, en fait. Donc Monsanto, par exemple, aurait le droit de vendre des trucs et des nouveautés, mais l'agriculteur, lui, est contraint à son niveau local à acheter tout Monsanto, enfin grosso modo, quoi. Il pourrait faire autrement, mais bon, Monsanto, je sais que certains y arrivent, mais ça c'est que c'est quand même excessivement compliqué. Et donc forcément, on en arrive à une société qui commence à être un peu vérolée, quoi, en fait, il n'y a plus de... C'est un petit peu n'importe quoi. Après aussi, donc voilà, cette liberté d'entreprendre, il en profite aussi, oui, je ricoche pas mal sur les concepts, le livre est quand même assez touffu là-dessus, c'est vrai, pour ça j'ai mis du temps pour le lire. Mais nous avons par exemple la liberté. Alors la liberté, qu'est-ce que c'est? On peut en parler pendant des heures. Mais lui note deux versions de la liberté. Donc nous avons la liberté positive, c'est l'individu qui adorait l'organisation dans la société, tout ça, etc. C'est l'individu qui pourrait aider, par exemple, à la rédaction de lois, tout ça, etc., pour émanciper, pour aider, un petit peu, une sorte d'émancipation de l'individu. Et après, nous avons ce que nous connaissons, c'est la liberté négative, donc c'est l'organisation fait sauter les dominations des individus. Donc, en fait, le but, c'est de faire une sorte de... faire sauter plein de verrous, pour que l'individu, en fait, devienne de plus en plus libre. Et pour qu'il y ait de moins en moins de domination, sauf que, on voit où ça en arrive. En fait, c'est ce paradigme qui est utilisé par la plupart des sociétés modernes, enfin, du monde occidental, dirons-nous, même si les autres, malheureusement, ont emboîté le pas. Donc, en fait, on est en arrière vraiment du libéralisme pour du libéralisme, et en fait, voilà, pour faire sauter toutes les contraintes de domination. On voit qu'on en arrive à des faits où maintenant, on a tout pourri, pourquoi? C'est pas drôle. Et donc voilà, c'est ce que je disais, c'est faisant sauter tous ces domaines de domination, on retombe du coup sur ce que je disais avec les semences, donc cette capacité d'entreprendre qui quand même est là. Voilà. Donc en fait voilà, on se retrouve avec une sorte de ce que j'appelle moi le globibulga, le vrai. Voilà, truc à droite, à gauche, et qui sont très incohérents. Donc tout ça c'est la critique de la. Vraiment une critique de la... Parce qu'il appelle, à charge contre la modernité, parce que nous en a fait arriver au point où on en est, tout simplement. Hein. Faut pas se cacher derrière son petit doigt, on en est là, forcément à cause de ça. Et après, il parle de pas mal de concepts, et on a par exemple, il parle de ce qu'on appelle la croissance, c'est des fruits de la croissance, truc qui n'existe plus, hein. Ça a marché pendant les 30 glorieuses à peu près, mais c'est un truc qui n'existe plus, hein. C'est la croissance, à part, comme il dit, elle devait amener du bien-être, elle devait amener des meilleurs rapports à l'inégalité, c'était ça aussi le départ du capitalisme aussi, c'était pour mettre aussi aux individus, et ça a servi, hein, chez nous, en France, tout ça, etc. Plus largement dans le monde, ça a permis quand même de lever des gens, de les sortir de la fange, c'est un gros mot, mais de les sortir de l'illettrisme, tout ça, etc., ça a permis, mais à quel prix quand même, voilà, et que ce qu'on pourrait se poser maintenant, parce que bon, le chômage ne réduit pas forcément, ou alors le chômage est réduit au prix de sacrifices sur les droits sociaux, tout ça, etc., et au moins, on voit aussi qu'on en arrive à des cas où, maintenant, les gens ne sont pas forcément... beaucoup de travail. En Allemagne, par exemple, le chômage a baissé, mais il y a beaucoup de travail précaire, tout ça, etc. Et déjà, je pense, en plus, c'est pas expliqué dans le livre, mais je pense que ce travail précaire affecte énormément toujours les mêmes catégories, dont les femmes, les gens qui n'ont pas forcément, sont pas hyper diplômés, tout ça, etc. Donc c'est toujours les mêmes qui chargent, et forcément, ça enrichit toujours les mêmes, parce que en France, avec les magnifiques réformes que nous avons eu par exemple nos milliardaires qui ont augmenté à peu près leurs revenus de 14,5%, ce qui est quand même ce qui est loin d'être une paille. Alors après, il y a un passage du livre qui m'a fait beaucoup rigoler. J'avais jamais vu le concept là-dessus, il nous parle de véganisme. Alors c'est une charge contre le véganisme assez dure, hein, mais je pense qu'elle est vraie. Alors quand il nous parle de véganisme, il parle pas forcément du concept, je pense que là-dessus c'est beaucoup plus légitime, il ne parle pas de l'aspect souffrance animale, il parle plutôt de ce côté écologique. Alors quand il parle d'écologie, on pourrait se dire oui mais l'élevage ça pollue, donc en fait ce serait bien d'arrêter d'avoir des élevages. Certes, mais comme il disait plus tôt aussi dans le livre, il rappelle que l'écosystème, ou du moins la vie animale et la vie forestière, tout ça, etc., on l'a réduit à rien, on l'a réduit à peau de chagrin, 80% des insectes ont disparu en 10 ans, à peu près. Bon, c'est sur une, ça a été fait en Allemagne, sur une zone protégée, une zone protégée, donc pour vous dire quand même au niveau où on en est arrivé. Et que par conséquent, en fait, quand il dit que c'est anti-éco, que ce n'est pas écologique, le véganisme, en fait, c'est que il dit si on enlève déjà le peu qu'on a d'animaux, il ne restera plus rien. Concept qui s'entend, mais surtout qu'en fait c'est des valeurs qui sont prônées par des gens souvent qui disent urbains, qui n'ont quasiment aucun rapport avec la nature. Déjà, les gens qui sont à la campagne, on a un rapport avec la nature qui est un petit peu fortement biaisé, donc là-dessus, moi, je le rejoins. Et qu'en fait, c'est un rapport utilitariste à la nature. Donc en fait, on juge les animaux selon leur utilité, c'est souvent ça. On n'aurait pas le droit de les manger, par exemple. Mais est-ce que, par conséquent, est-ce que ça veut dire que le reste a le même rapport, ou je sais pas quoi, hein. On pourrait se parler, par exemple, assez du rapport aux animaux domestiques, qui est comme il est, mais voilà. Et ça amène beaucoup de problématiques. Ouais. Je vais essayer de voir si je vous trouve un... Ah, j'ai pas noté, mais... En fait, ouais, quand il parle d'utilitarisme, c'est vraiment, et d'anti-écologie, c'est qu'en fait, on se... comme le transhumanisme, en fait, quelque part, on se détache de la nature. Donc, en fait, on se détache nous-mêmes de notre condition qu'on est... qu'on mange de la viande, tout simplement. Hein, on peut être contre, on peut être pour, on peut être contre. L'homme a mangé de la viande, voilà. Ça fait partie de notre passé. Le chat mange de la viande, par exemple. Voilà. Est-ce que par conséquent, en s'interdisant, nous, de manger de la viande, on rajoute encore une couche d'abstraction par rapport à la nature. Donc en fait, on reprend un détachement en se disant « Non, 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 nous, on est supérieurs, et encore une fois, et maintenant, nous ne mangerons plus de viande. » Voilà, c'est ça en fait. On se relève encore par rapport à la nature pour s'interdire des choses. Et j'ai trouvé ce passage aussi très intéressant. J'avais jamais réfléchi le problème sous cet angle-là. Je trouvais ça pas mal intéressant. Alors j'avoue que ça fait pas mal, ça peut faire polémique, hein, mais ouais, moi je trouve ça très intéressant. Et il parle aussi, par conséquent, de donner des droits à la nature, parce qu'on en est arrivé à une société de droits, le droit social. Et donc, selon lui, on va peut-être un petit peu loin aussi dans le concept de droit à la nature, parce qu'on donne au Gange, par exemple, on lui a donné des droits, tout ça, etc. On a des fleuves aussi en Nouvelle-Zélande, on leur a donné des droits. C'est bien, mais c'est un peu, voilà, c'est un peu à deux vitesses, quoi, parce que tout le monde n'use pas des droits par rapport à la nature de la même façon. Parce que si on se consommait tous comme un Américain, il faudrait à peu près 6 planètes, il faudrait qu'on consomme tous comme des Français, il en faudrait à peu près 3. Et donc forcément, les gens dans des pays du tiers-monde qui sont ravagés par tout et surtout beaucoup de choses, eh ben, ils ne consomment pas autant que nous. Donc forcément, on n'a pas le même droit par rapport à la nature. Sachant que même dans certains de ces pays, je pense que cette consommation qu'ils ont en excès, c'est même d'autres nations qui viennent, par exemple, chercher du pétrole. On va pas se cacher d'un petit doigt pour dire ça. Et donc c'est vrai, voilà, que c'est compliqué. C'est beaucoup de concepts compliqués. Et à la fin, il finit, donc bon, forcément pas forcément conclure sur des solutions, mais plutôt prôner, voilà, vraiment un rapprochement avec la nature. Et essayer de peut-être aussi de un peu mieux conceptualiser certains concepts, par exemple le climat. Alors le climat, c'est pour ça que c'est compliqué de l'expliquer, parce que c'est un concept fumeux, pas fumeux, pas traître, hein. Fumeux est un concept un peu vague, un peu flou plutôt, et on a forcément du mal à interagir avec lui. Par exemple, les OGM, on voit ce que c'est, on les a dans notre alimentation, on peut voir plus facilement les impacts. C'est un objet, voilà, on peut plus facilement agir dessus, voilà. Alors que le climat, on agit dessus, mais pas sur commande. Donc c'est vrai que ça devient hyper compliqué de tout expliquer, quoi. Et d'aller dessus. Voilà, c'est à peu près tout ce que j'avais noté de ce livre, donc Une nouvelle Terre de Dominique Bourg. Alors j'espère que ça n'aura pas été trop bordélique. J'espère vous avoir expliqué pas mal de concepts aussi. Est-ce que je vous recommande ce livre? Donc si vous êtes tenu jusqu'à la fin de ce podcast, oui, je vous le recommande. Est-ce qu'il est facile à appréhender? Tout ceci est une autre question. Moi, je répondrai non. C'est excessivement compliqué. Je pense qu'il va falloir que je le relise pour réingérer certains concepts qui sont bien compliqués à dos. Et donc, c'est Une nouvelle Terre de Dominique Bourg. C'est sorti chez donc Des Clés de Brouwer. Et ça coûte 16,90€. Waouh, pas 17€, non, 90. Non, voilà, bah, écoutez, je vous remercie. Pour votre écoute, où vous retrouverez d'autres épisodes, peut-être ce mois-ci d'ailleurs, hein, parce que nous sommes en mars 2019, sur l'écologie. Alors ce sera beaucoup plus simple que ça, Mais c'est une sorte d'introduction qui m'a permis de voir, de brosser des concepts un peu plus profonds que ouh là là, faut pas prendre sa voiture, ça pollue. Ouh là là, faut pas acheter d'iPhone, ça pollue. Ouais, j'ai essayé d'aller un petit peu, voilà, de gratter vraiment la spiritualité, de gratter vraiment des concepts philosophiques par rapport à tout ça, pour essayer d'avoir plus de clés de compréhension. Parce que oui, la philosophie, c'est ça, c'est essayer d'avoir des clés de compréhension. Alors, comme dirait Orelsan, t'es plus intelligent, mais t'es toujours aussi con. Et quelque part, c'est ce que j'essaie de deviner à travers les lectures que je fais, les comptes rendus que je vous en fais. Bon, c'est pas forcément des comptes rendus, parce que c'est un peu compliqué de faire un compte rendu de livre philosophique. Entre guillemets, bien évidemment. Mais voilà, donc j'essaie de vous expliquer pas mal de concepts. J'espère que ça vous plaît, parce qu'il y en aura d'autres. Par exemple, sur la monnaie, hein. Voilà, ou d'autres. Ce que j'ai prévu encore, ouais, d'autres livres sur l'économie aussi, parce que c'est un concept qui me plaît beaucoup, parce que c'est pareil, l'écologie, on en parle, mais sans forcément enfin, tout comprendre. Est-ce que nous avons la prétention de tout comprendre? Je ne sais pas, mais essayer d'en comprendre le maximum. Mais voilà, il y a quand même un langage, tout ça, etc. Et après, il y a l'économie. Alors là, c'est l'économie, c'est un peu l'espèce de boss ultime, en fait. C'est des plein de concepts hyper flous qu'on comprend pas et que même les gens quand ils nous les expliquent c'est pas forcément toujours bien expliqué comme il disait David Kella dans un épisode que j'ai passé où il parlait de la pensée économique. En fait c'est des fois des gens qui s'approprient aussi un langage hein. C'est un peu la novlangue aussi par exemple avec les en ce moment on parle beaucoup de novlangue parce que les gens essaient d'inspirer des concepts fumeux. Hein, comme la start-up, le. Oh, il y a d'autres mots comme ça, mais j'en ai pas en tête comme ça. Mais voilà, et c'est tout ce jargon en fait, et certains sont même intimement convaincus que ça se passe comme ça en fait. Même si les réalités économiques sont tout autres, certains sont persuadés, par exemple, que la mondialisation est heureuse. Pour certains, oui, mais je pense que c'est pas beaucoup de monde. Jeff Bezos, oui, pour lui, ça doit être. La mondialisation doit être très heureuse. Enfin, je sais pas si au quotidien c'est très heureux pour lui, mais pour son compte en banque, en tout cas, oui. Il y a plein de choses comme ça qui même moi je m'y penche dessus, et ça mériterait d'être expliqué parce que c'est un peu ouais, c'est très compliqué quoi comme concept. Donc voilà, écoutez, ce sera le mot de la fin. Donc on se retrouvera bientôt dans Flux URSS. C'était toujours Gandalf 81 aux manettes, camarade. Et il te dit à très bientôt. Dans Flux RSS, au revoir.
USSR.